Bonjour Thomas Legrand.
Bonjour.
Votre édito à côté que vous faites à côté de votre sujet du jour, si je puis dire. Emmanuel Macron, dites-vous, est un mystère politique.
Oui, vous n'êtes pas, Monsieur Macron, à l'évidence, la bulle médiatique que prévoyaient ceux qui pensent que la politique se répète toujours. Il y a du monde dans votre sillage et vous commencez à constituer une réponse possible non extrémiste au désarroi qui s'est emparé d'une bonne partie des électeurs. Mais vous êtes une réponse pour l'instant évasive. Ça marche quand même, hein, parce que une dynamique politique prend quand chacun commence à y voir non pas forcément ce qui s'y trouve, mais ce qu'il a envie d'y mettre. Et là, vous apparaissez comme une solution gentiment anti-système qui peut rassembler une grande partie de ceux qui veulent une alternative radicale mais sans repli ni bouc émissaire. Seulement, tout ce qui fait de vous en ce moment le réceptacle de beaucoup d'aspirations ne suffit pas à vous définir.
Vous voulez dire que vous n'arrivez pas à savoir qui est politiquement Emmanuel Macron?
Non, et si selon la célèbre formule du cardinal de Retz, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment, il va quand même falloir y passer, Monsieur Macron, parce que votre succès actuel vient aussi de l'exaspération vis-à-vis de l'ambiguïté de ceux qui vous ont fait et que vous avez quitté. C'est bien beau de refuser les partis, de n'être ni de droite ni de gauche. C'est vrai que beaucoup de solutions à nos problèmes se heurtent à l'hémiplégie politique et qu'à certains moments de notre histoire, en 45, en 58 et sans doute maintenant, il faudrait une bonne dose de « si tous les gars du monde », mais quand même... Quand un candidat est issu du PS ou de LR, ça veut dire d'abord que sa démarche vient d'un collectif. La politique est une aventure collective et un parti politique, c'est avant tout une lignée des fidélités, une histoire des solutions délibérées, la gauche démocratique, ça vient de loin, de l'affaire Dreyfus, de Jaurès, Clémenceau, Blum, Rocard. Quand on est de droite, on se réfère à De Gaulle, on vibre à l'évocation de la France des cathédrales. Et quand on est candidat à l'élection présidentielle, si on est de gauche, on rajoute dans son discours une petite dose d'évocation de la France des cathédrales. Si l'on est de droite, eh bien, on cite en exemple la probité de Jaurès ou l'humanisme de Blum. Bref, on fait l'effort d'aller vers l'autre France, pour montrer que l'on peut représenter toute la France. Mais au moins, on sait d'où le candidat vient et à qui on a affaire. Vous, Monsieur Macron, vous avez l'air d'être tout, ministre d'un gouvernement socialiste qui s'extasie au Puy du Fou. Ce syncrétisme est louable, mais il est incroyablement prétentieux. Vous ne pouvez pas être toute la France quand même. Vous n'avez pas l'air d'être celui qui, venant d'un camp, s'ouvre à l'autre. Vous semblez, sans passé politique, être de tous les camps, au risque d'être de nulle part. Vous citez De Gaulle et Mendès France comme source d'inspiration, mais ces deux hommes se sont durement affrontés après la guerre sur les questions de finances publiques, en 58 et 62, sur les sujets constitutionnels, institutionnels. On a besoin, par exemple, de savoir si vous êtes plus Mendès ou plus De Gaulle. En fait, pour pouvoir véritablement croire à votre œcuménisme, on a besoin de savoir, Monsieur Macron, si vous vibrez plus à l'évocation du massacre du mur des fédérés ou à celui des Chouans.
Thomas Legrand, merci. Et donc, on est là avec Léa Salamé. Bonjour Léa.
Bonjour Emmanuel Macron.
Pour tenter de percer ce mystère, qui êtes-vous, Emmanuel Macron? Celui qui disait en décembre 2014 « je suis socialiste et je l'assume » ou celui qui, 2 ans plus tard, dit devant Philippe de Villiers qu'il n'est pas socialiste?
J'ai toujours dit que je venais, j'étais, et je vais répondre ainsi à Thomas Legrand, de la gauche. C'est ma famille politique, je suis né dans une famille de gauche, j'ai les références que vous évoquiez. J'ai dit que j'ai été un moment au Parti Socialiste, je l'ai quitté. Je ne suis pas revenu au Parti Socialiste, quoique appartenant à un gouvernement à majorité socialiste. Et donc j'ai toujours assumé ça, je n'ai pas attendu d'être au Puy du Fou, qui manifestement a été une expérience traumatique pour beaucoup.
Mais c'est en France. Dans votre propre camp, il y a eu des voix qui n'ont pas beaucoup aimé.
J'assume totalement parce que c'est en France, le Puy du Fou, c'est une expérience qui a marché. Et j'ai été dire mes désaccords politiques avec Philippe de Villiers, mais en même temps reconnaître que ce qu'il a fait, beaucoup de gens qui se prétendent de gauche ne l'ont pas fait. Il s'est pas enrichi personnellement, il a développé une activité culturelle, il faut aussi regarder le pays en face. Donc, j'ai mon identité politique, elle vient de la gauche, mais elle est dans le dépassement. Je ne crois pas à la gauche de l'égalitarisme, je crois à la gauche de l'égalité des chances. Je ne crois pas au repli sur sa propre identité. Et je pense que nous sommes aujourd'hui à un moment du pays où le clivage droite-gauche, je n'en nie pas la pertinence, ni l'histoire, et vous avez totalement raison. Et on vient toujours d'un endroit. Mais je dis qu'on a besoin de le dépasser pour répondre à nos défis. Alors, le défi, c'est de savoir, on en parlait rapidement tout à l'heure, comment on produit aujourd'hui avec la transition écologique et numérique. Comment on traite le problème des inégalités qui explosent dans la mondialisation.
On va faire ça par exemple.
Comment on traite de la laïcité de l'Europe. Sur chacun. Non mais c'est très important parce que au-delà des références culturelles et du paysage imaginaire qu'on peut avoir, si on reste enfermé dans le droit de gauche, on reste enfermé dans un dialogue qu'on a vu à l'œuvre dans les deux primaires. entre les progressistes et les conservateurs de chaque camp.
Alors justement, la gauche, elle a depuis trois jours un nouveau visage, Léa.
Emmanuel Macron, il est jeune comme vous, il remplit les salles comme vous, il est pro-européen comme vous et en plus il vient de gagner la légitimité des urnes, 2 millions de votants. Benoît Hamon n'est-il pas aujourd'hui le candidat légitime du camp progressiste ?
Il est le candidat légitime du Parti Socialiste, à sa primaire. Est-ce que
la primaire de la gauche, de la Belle Alliance.
Oui, dont il ne vous a pas échappé qu'elle débordait assez peu du Parti Socialiste. C'est d'ailleurs un reproche que faisaient celles et ceux qui appelaient à cette primaire. Moi, j'ai de l'amitié, du respect pour Benoît Hamon. Nous ne partageons pas les mêmes convictions et je ne pense pas qu'il reflète ce qu'est le progressisme. Parce que pour être progressiste, il faut proposer un modèle où on produit et on redistribue. Et dans le programme de Benoît Hamon, on n'explique pas comment on produit. C'est ça le vrai problème. On explique très bien comment on redistribue quelque chose qu'on ne sait plus produire. Et donc avec la croissance qu'on évoquait tout à l'heure, avec les défis de la société française, la solution qui est mise sur la table n'est, à mes yeux, pas réaliste, mais surtout philosophiquement. Elle ne relève pas de ce qu'est le progressisme. Et je l'ai dit, et d'ailleurs quand on prend cette filiation qui passe par Jaurès, par Blum, et qui vient jusqu'ici...
S'il n'est pas progressiste, il est quoi ?
Je pense qu'il reflète... de manière très concrète, une sensibilité forte d'une gauche très interventionniste, que je respecte totalement, qui est très redistributive.
Là où vous seriez plus libéral, c'est ça ?
Là où j'assume de davantage défendre en effet les libertés et la capacité à produire, mais surtout la place du travail. Parce que le débat philosophique qu'il y a derrière justement le sujet, c'est celui du travail. Moi, je pense, le travail, ça n'est pas un malheur. Le travail, c'est votre capacité à trouver votre place dans la société. C'est votre capacité à vous construire. C'est votre capacité à vous sortir de votre condition. Vous savez, j'étais il y a quelques semaines dans le bassin minier, au milieu justement de femmes et d'hommes qui étaient parfois les enfants, voire celles et ceux qui avaient vécu le choc de la désindustrialisation, de la fermeture des mines. Ils ne vous demandent pas le revenu universel. Ils ont eu le chômage de masse, et maintenant ils sont au minima
sociaux. Donc c'est une mauvaise idée.
Non, mais ils veulent une place dans la société. Et donc, aujourd'hui, quand on parle de progressisme, c'est de savoir comment on redonne de la mobilité dans la société, comment on permet de s'inscrire, de construire son destin par le travail, par les nouvelles formes de travail, par une capacité à être formé différemment et à prendre sa place dans la société.
Un mot de cuisine politique, Benoît Hamon vous appelle, vous allez discuter avec lui, ou vous pensez qu'il n'y a rien à discuter ou à négocier ?
D'abord, il ne vous a pas échappé que Benoît Hamon, à la fois dans le final du débat pour les primaires et le soir même, a considéré qu'il avait à discuter avec messieurs Mélenchon et Jadot. Je ne fais pas partie de celles et ceux qu'il a lui-même cité. Ce qui est normal, puisqu'il a une vision politique.
S'il vous appelait, Emmanuel Macron,
mais
vous discutez avec lui ou pas ?
Je l'ai vu hier, on s'est croisé à la Fondation Abbé Pierre, donc je l'ai...
Et alors ?
Je l'ai vu, mais je pense que il faut être cohérent dans la vie politique. Moi,
oui,
je suis.
Il faudra bien,
mais
bien gouverner.
Mais il faudra gouverner
après la présidentielle.
Mais je vais vous expliquer très clairement. Il faut être cohérent. Il est sur une ligne qui est une ligne très à gauche, que je respecte, qui n'est pas le barycentre même actuel du Parti Socialiste, qui est la gauche du Parti Socialiste. Il veut discuter avec le Parti Communiste et avec les Verts. Il veut recréer la gauche plurielle. C'est ça son horizon politique.
Donc, sans vous.
Moi, je pense que ça ne permet plus aujourd'hui de répondre aux défis du pays.
Puisque vous parlez de cohérence,
c'est ce qui n'a pas marché. Donc, l'offre politique que je construis depuis avril 2016, c'est une offre qui consiste à rassembler, si je puis le faire dans des termes politiques classiques, la social-démocratie, l'écologie réaliste, les radicaux de gauche et de droite, et le gaullisme social, c'est-à-dire cette famille, ces familles, et la droite orléaniste et le centre-droit européen, c'est-à-dire ces familles qui ont des divergences, dont les histoires et les références...
Mais vous gouvernez avec qui ? Vous gouvernez avec
qui ? Avec celles
et
ceux,
justement. Parce que c'est une des questions. On a moins de trois mois du premier tour de l'élection présidentielle. Il y a beaucoup de gens qui disent « Mais Macron, il va gouverner avec qui ?» Est-ce que vous aurez des anciens collègues à vous, du gouvernement, qui seront dans votre nouvelle équipe ?
Écoutez, je construis aujourd'hui un projet politique que je finirai de décliner à la fin du mois de février, avec des principes établis depuis l'été dernier, et donc une méthode, une avancée constante. J'ai autour de moi des femmes et des hommes qui sont aujourd'hui au Parti Socialiste, qui sont des responsables des grands-mères locaux, Gérard Collomb, plusieurs députés, certains sont en train de nous rejoindre.
C'est avec eux que vous gouvernerez ?
Je vais aller au bout de ce sujet. J'ai des femmes et des hommes du centre-droit, Sylvie Goulard, Jean Arthuis, Marie Hydrac, qui nous rejoint.
Elle vous rejoint.
Je vous confirme. Ouais, certains qui, hier, étaient avec une sensibilité de gaullisme social, comme Jean-Paul Delevoye. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de construire. Mais surtout, avec des femmes et des hommes qui arrivent à la vie politique. Et il faut bien vous représenter que nous sommes en train... Et ce à quoi je crois, c'est un renouvellement. Et donc nous avons nommé 100 référents dans les départements aujourd'hui. Il y a des femmes et des hommes de la société civile qui nous rejoignent, qui sont en train de monter. Donc, sur le plan gouvernemental, je construirai une équipe dont la diversité reflètera cela. C'est-à-dire des femmes et des hommes qui viennent de la société civile, certains qui viennent de la gauche, d'autres qui viennent de la droite. Sur le plan politique, nous avons défini la méthode, et elle est en route, qui nous conduira à investir 577 candidats. Et donc, je l'ai énoncé avant même le résultat de ces primaires.
Partout, face au Parti Socialiste, il y aura 577 candidats.
Il y aura partout 577 candidats. La moitié au moins seront des nouveaux candidats qui viennent de la société civile, qui viennent de la vie active. Parce que si on veut renouveler la vie politique, il faut
On attend les noms en dehors d'Alain Minck, Jacques Attali et Bernard Kouchner qui vous soutiennent.
Vous pouvez... Non mais attendez, parce que là vous êtes insidieuse, donc je vais vous répondre. Vous pouvez...
Non, je ne suis pas insidieuse, je suis soutien.
Mais non, mais vous pouvez... Mais d'accord, mais les soutiens... Il y a 170 000 membres. Ce matin, on a passé le nombre de 170 000 adhérents. Bon. Donc, c'est que c'est en train d'avancer, c'est que quelque chose se passe. Ce que vous citez, naguère me critiquer. Reprenez ce que disait Alain Minck quand il soutenait Alain Juppé, ou ce que disait parfois Jacques Attali. Donc, il n'y croyait pas. Je sollicite l'adhésion de plus de 50% des Français. C'est cela la marche à suivre pour convaincre. Donc, qu'il y en ait plus ou moins vocaux, qui décident à un moment de changer d'avis et de me soutenir, très bien. Mais pour autant, ils n'infléchissent pas ma ligne. Pour autant, ils ne sont pas au cœur de la construction de ce projet. Pour autant, pour être très clair avec vous, ils ne seront pas celles et ceux avec qui je gouvernerai.
Bien. Emmanuel Macron.
Je gouvernerai avec des responsables politiques de gauche et de droite et avec de nouveaux responsables venant de la société civile, parce que nous sommes en train de construire cette refondation.
Emmanuel Macron, l'état d'urgence a été prolongé jusqu'au 15 juillet prochain à une large majorité de l'Assemblée nationale. Vous êtes élu président, est-ce que vous le prolongez encore ?
Je pense que ça n'est pas la solution, en effet, de manière durable. Je n'ai pas aujourd'hui toutes les informations dont dispose le ministre de l'Intérieur comme le Premier ministre sur les réalités qui les ont conduits à proposer de le prolonger. Je l'ai dit, je pense que, compte tenu des modifications législatives qui ont été faites, nous avons maintenant de quoi vivre hors d'état d'urgence avec un risque terroriste. S'il a été prolongé, avec un contrôle parlementaire réel, et là il faut saluer le travail qui a été fait sur ce point-là, qui est exemplaire, ça veut dire que des éléments de risque dont je ne dispose pas aujourd'hui ont été établis. Donc je reposerai cette question, je les reposerai aux services français pour pouvoir évaluer la réalité du risque terroriste, pour pouvoir considérer la nécessité et l'opportunité justement de... des procédures que permet seul l'état d'urgence, c'est-à-dire, on le sait, il y a certains types de perquisitions qui ne sont pas possibles hors de l'état d'urgence. Et dans le cadre d'un contrôle parlementaire transparent, je poserai la question de sa levée.
Vous aviez déclaré quelques jours, 8 jours après les attentats du Bataclan, la société française a une part de responsabilité dans le terreau sur lequel prospère le djihadisme. Cette phrase avait suscité beaucoup de remous, Emmanuel Macron. Est-ce que vous la rediriez ce matin ?
Bien sûr. Mais bien sûr, il y a un fait terroriste. Parce qu'il y a un djihadiste islamiste totalitaire qui a à la fois un projet de destruction massive, qui est un projet politico-fanatique. Face à ce risque, il faut se battre, on se bat militairement. J'étais il y a quelques jours en Jordanie avec nos forces armées, avec nos militaires qui se battent au quotidien et que je veux ici saluer. Mmh. Il y a un risque terroriste qui existe en France, et là il y a une réponse sécuritaire à apporter, et la réponse législative l'a largement été. Et il y a derrière tout cela la question de savoir comment des femmes et des hommes basculent. Ils basculent parce qu'il y a de la manipulation, parce qu'il y a des fragilités personnelles, donc on a des psychotiques, on a des gens qui se font influencer. Et il y a en France un phénomène qui est la radicalisation, comme on le dit, je n'adore pas ce terme, mais le fait que certains deviennent fanatiques et peuvent être manipulés. Il y a aussi d'autres faits qui sont différents du terrorisme. Qui sont
donc
des
il y a une explication sociologique.
Qui sont des communautarismes. Je dis que le cœur de la bataille, c'est la lutte contre le terrorisme, et ce que je viens d'évoquer. Mais derrière, on doit collectivement se poser la question de savoir comment et pourquoi des jeunes qui sont nés en France, qui ont été éduqués en France, peuvent aller vers ces trajectoires. Et donc derrière cela, il y a un échec de la République. Derrière cela, il y a le fait que ce soit par le fait terroriste ou que ce soit quand on considère le fait communautariste, il y a un échec de la République. Donc oui, et je pense que nous ne nous sommes pas grandis à ce moment-là quand on a voulu faire croire aux Français que le mal était expulsable de la société française. Une société démocratique contemporaine, bien. Adulte, elle a toujours du mal en elle. Il est d'ailleurs un peu dans chacun d'entre nous, mais il y a du mal en nous, donc il faut le regarder en face, le traiter. Et donc ça veut dire qu'il y a une réponse punitive, mais il y a aussi une réponse éducative, républicaine.
Votre
ça
position...
veut dire qu'il faut réinscrire ces jeunes ou moins jeunes dans une trajectoire de la République, leur donner la possibilité d'être élevés dans la République, d'avoir des espoirs dans la République, être intraitable avec celles et ceux qui ne respectent pas les lois de la République, mais leur redonner une mobilité, une capacité à s'inscrire dans celle-ci.
Il n'y a plus le temps.
Ben non, on n'a plus le temps.
Et malheureusement, ça passe très vite, Emmanuel Macron.
Très vite.
Il y avait encore beaucoup de questions.
Merci à vous, Léa Salamé. Merci. Et on a d'autres questions en sort qui vont venir tout à l'heure après le journal de 8h. Et puis avec les auditeurs d'Inter qui continuent de nous appeler au standard au 01 45 24 7000.